Pauline Pucciano, Paradict, 28 septembre 2071. Chine. Les dernières IA d'Apple se vendent comme des petits pains. Nettoyage des nappes phréatiques, l'invention qui va révolutionner nos sous-sols. Évacuation de l'île Mopiti avant engloutissement. L'alerte au vent de sable avait été donnée plusieurs heures auparavant. Un fort vent de sud, en provenance du Sahara, allait souffler sur l'Europe un air abrasif et asphyxiant. Les rues, les toits et les poumons allaient se recouvrir d'une fine pellicule de cendres. Des délicats, des enfants, des vieillards allaient en mourir par dizaines et, au fur et à mesure que les minutes passaient, les rues de la City se faisaient de plus en plus désertes. C'était la première fois qu'Abel se risquait au dehors lors d'une telle alerte. Il avait pris l'habitude depuis l'enfance de se calfeutrer dans des appartements aveugles ou dans des abris souterrains et d'attendre la fin de l'alerte. Mais aujourd'hui, l'heure avait sonné de transgresser les règles communes et il goûtait particulièrement sa marche solitaire. Il n'y avait pas un souffle de vent pour l'instant et la ville paraissait écrasée sous une chape de silence, un poids invisible qui l'oppressait. Comme avant chaque soubresaut de la terre, la paix du monde immobile semblait trompeuse, irréelle. L'adresse indiquée par la mystérieuse Abuela était une sorte de gymnase ou de foyer de jeunes. Il n'y avait pas de scan à l'entrée, mais quelques jeunes gens qui gardaient la porte. Ils ne lui demandèrent rien, mais l'observèrent de manière appuyée. Ils avaient son âge à peu de choses près et des tenues disparates. À l'intérieur, Abel reconnut des installations sportives à l'abandon. Des agrès connectés dont la partie électronique était éventrée, des tapis de course définitivement arrêtés, des zones d'apesanteur, des installations de e-sport. Il y avait quelques chaises, vides pour la plupart, et les jeunes gens déjà présents étaient plutôt assis par terre ou sur les ruines des agrès. Il n'y avait pas d'estrade, pas de micro, pas de caméra. Cela ne ressemblait pas aux meetings politiques qu'il connaissait. Abel eut une pensée fugitive pour sa sœur Elsée, qui devrait, elle, prendre la parole dans des salles de meeting sonorisées et sécurisées, devant des milliers de personnes triées sur le volet et des dizaines de caméras qui la filmeraient sous toutes les coutures. Ici, l'orateur allait s'adresser à ce drôle de tout-venant désœuvré. Les jeunes gens s'organisaient par grappes. Il n'y avait pas de look particulier, mais un mélange de tout ce qui pouvait émaner de près ou de loin de la contre-culture. Abel enregistrait des informations sans y penser. Il compta des yeux les 31 personnes présentes, qui ne comprenaient que 3 filles, et photographia mentalement quelques personnages emblématiques. Un jeune homme qui arborait un t-shirt moulant portant la mention « I am carnivorous », un autre dont le bras portait un tatouage « rather dead than old », un individu transgenre en robe du soir, un délicat aux vêtements gothiques ultra sophistiqués avec les lèvres noires. Il y avait toutes les origines ethniques, tous les styles. Abel ne put s'empêcher de comparer cette assemblée à celle des étudiants de la World Academy et de constater l'incroyable uniformité de cette dernière. Abel, remarqué partout où il allait pour sa beauté, ne se fondait nulle part, mais se trouvait à sa place partout. Il sentait sur lui des regards de curiosité et de désir, auxquels il répondait machinalement par un regard insistant. Une dizaine d'autres jeunes gens entrèrent encore, avant que la petite foule ne réagisse et ne se reconfigure. Un jeune homme d'assez petite taille, au visage fin, aux yeux vifs, saluait les autres un par un avec un sourire en coin. Une fille le serra dans ses bras, comme si elle le retrouvait après une longue séparation. Il passa devant Abel et lui sourit poliment, mais sans arrêter son regard. Puis il saisit une chaise et s'assit au milieu de la salle. Les autres se massèrent autour de lui, avec beaucoup de chahut et de rire. Il ne semblait pas impatient, il semblait content d'être là et ne pas avoir mieux à faire. « Oh, Cyril, où est-ce que tu as passé les dernières semaines ?»« Ça ne te regarde pas, » répondit-il, bon enfant. « T'as fait exprès pour le vent de sable ? C'est moi qui l'ai fait souffler, » renchérit-il. Il y eut un échange de propos amicaux un peu décousus, dont les allusions échappaient à Abel. Ce qu'il comprenait, en revanche, c'était que Cyril Borgheist était aimé de tous, qu'ils étaient heureux de le revoir après une absence un peu longue, et qu'aucun d'entre eux n'avait hésité à sortir pendant l'alerte. Il n'avait rien de particulier dans son allure, un visage plutôt banal, si l'on exceptait ses yeux d'une remarquable vivacité. Je vois que notre groupe est chaque jour plus nombreux, fit-il enfin. Des acclamations fusèrent, et beaucoup d'yeux se braquèrent sur Abel, mais aussi sur un groupe de trois autres garçons qui semblaient aussi nouveaux que lui. « Comment vous appelez-vous » demanda Cyril. « Abel. Kenny. Stanley. Grégor. » « Abel était le préféré de Dieu, » lança Cyril. « Est-ce que tu as un frère maudit ?»« C'est moi le frère maudit, » dit Abel. « On aime mieux ça, » dit un autre en riant. Cyril, cependant, n'était pas venu pour plaisanter, et ce n'était pas cela que les autres attendaient de lui. Il était venu pour prêcher. Du moins, c'est le mot qui vint à l'esprit d'Abel, même s'il paraissait infiniment éloigné des prédicateurs ordinaires. Sa voix était simple, sans artifice, nue. Elle allait chercher les mots dans des équilibres précis et leur donnait tout leur poids de sens. Abel maîtrisait la langue de bois et maniait l'ironie, mais il reconnut immédiatement, dès les premières phrases, la supériorité de Cyril Borgheist dans l'exercice vivant, fascinant, de cette pensée à voix haute. Le monde est aride, aussi stérile qu'un vent de sable. Ce désert qui vient jusqu'à nous est un symbole parfait de la stérilité de notre époque. Nous sommes peut-être la dernière génération, celle qui ne peut enfanter que du vide, que de la destruction. On nous l'a assez répété. Après nous, le feu, le déluge, l'apocalypse. Mais il y a une question que personne ne se pose. Qu'est-ce que ça change ? Je veux dire, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? L'homme a toujours été mortel. Ça ne date pas d'hier. Je me rappelle quand j'ai compris que j'étais mortel. J'avais un peu moins de 4 ans. J'ai pleuré d'angoisse existentielle pendant toute une soirée. Et puis, le lendemain, mon enfance a repris le dessus. J'ai continué à jouer, à manger, à dormir. Et vous tous, et tous les hommes avant nous, ont toujours fait de même. La planète est vieille, son organisme se désagrège. Elle va crever et nous emporter dans sa chute. Il faut bien mourir de quelque chose. L'humanité n'est pas éternelle non plus. Ça fait 2 siècles qu'on le sait. 2 siècles que Dieu est mort et que le soleil va s'éteindre. Et alors, tout ce que nous avons, c'est cette vie-là, ce destin-là, cet avant-désastre, ce sursis. Dans le silence de la salle, un silence dont Abel apprécia la qualité, on commençait à entendre le vent qui sifflait au dehors. Abel imaginait les rafales apportant leur immémoriale poussière qui recouvrirait toute chose. Ce temps n'est peut-être pas long à l'échelle de la planète, mais à notre échelle, il est le temps de notre vie, de notre jeunesse, de notre soif de sensation, de notre désir. Si nous sommes la dernière génération, cela signifie-t-il que nous devons nous enterrer vivants? Renoncer à vivre parce que c'est bientôt fini? Parce que ce n'est plus la peine? Parce que le voyage de l'humanité s'achève? Mais le voyage s'achève toujours. Il est toujours achevé partout, pour tout le monde. L'aspect transitoire de notre vie n'est ni une surprise, ni une particularité de notre époque. Le voyage s'achève, et c'est pour cela qu'il est beau. C'est pour cela qu'il faut vivre chaque journée avec intensité, comme si c'était la dernière, avec la conscience aiguë de la fin prochaine, qui décuple la valeur de l'instant. Notre voyage a une fin, la belle affaire. Nous sommes aujourd'hui, ici, maintenant, toujours à bord et toujours en partance, comme nous le serons jusqu'à notre dernier souffle. Cyril Borgheist marqua une pause. Dehors, on entendait comme le crépitement d'une pluie sèche. « Nous avons envie de faire l'amour sur les bords du volcan. Nous avons envie de danser sur les décombres. Et au lieu de cela, au lieu de l'incandescence de notre jeunesse, on nous donne de la sécurité, des souterrains, des alertes, des appartements sans fenêtres, des rues désertes, une administration de vieux, gérée par des vieux et pour les vieux, un centre de soins palliatifs où la douleur est anesthésiée et où on est déjà mort. Vivre, mourir, c'est un même élan. Et si nous n'avons que notre mort, qui a le droit de nous l'enlever ? Même les condamnés à mort ont droit à un dernier repas, à une dernière parole. Si notre génération a envie de flamber toute son énergie, qu'ils prétendent inutile, est-ce que c'est vraiment plus absurde que de vivre toute une vie comme des rats ? Si nous ne voulons pas de leurs anesthésions, si nous voulons regarder notre mort en face et avec elle le grandiose naufrage de l'humanité tout entière, si nous voulons mettre tout notre orgueil dans cette lucidité sans concession, est-ce que nous n'aurions pas alors une chance de bonheur ou simplement de beauté, de fulgurance, est-ce que nous ne serions pas enfin vivants ? On raconte que les musiciens du Titanic ont continué à jouer pendant le naufrage, conscients de leur mort, conscients de l'inutilité de toute chose, il leur restait leur art. Je voudrais que nous les prenions en exemple, à cette heure où nous en avons aucun. La musique du naufrage. L'humanité a été belle, mes frères, et le fait de disparaître ne lui retire pas sa beauté. Sa beauté résonne dans l'éternité, même si l'éternité est vide, dans notre conscience infinie et mortelle, capable de saisir l'infini silence du monde. L'humanité est tout ce que nous avons, tout ce que nous avons jamais eu. C'est en humain que nous devons vivre jusqu'au tout dernier instant, libre et conscient, traversé de désir, illuminé. Mais la World Administration ne l'entend pas de cette oreille. Elle entend nous mener à l'abattoir comme des moutons. Il ne faut pas sortir du rang, il ne faut pas prendre de risques, il faut arrêter de penser et être le suivant pour que tout se passe bien, pour que tout soit prévisible. Ce monde est un asile de vieillards qui nous confisque notre lumière et notre faim et notre espace. Je suis prêt à donner quelques années de ma vie pour pouvoir mourir debout. Les élections qui approchent marqueront une nouvelle étape dans le renoncement général, dans la privation des libertés, un pas de plus vers le tombeau. Moi, je vous appelle à la désobéissance civile, à chaque fois que cela sera nécessaire. Elle fera de vous des condamnés heureux. Je vous appelle à jouer envers et contre tous les capitaines qui voudraient vous embrigader dans des radeaux de fortune. La musique du naufrage. La voix retomba dans un silence animé de toutes ses pensées, qui convergeaient vers une même contemplation. Abel ne réfléchit pas vraiment avant de lancer. « L'art, et rien que l'art, disait Nietzsche. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. » Des regards se tournèrent vers lui, autant d'âmes avides, inquiètes, indociles, qui attendaient de ses paroles répandues l'émergence d'un sens. Pas seulement l'art, mais aussi le désir, la curiosité, la joie des premières fois, dit doucement Cyril. La jeune personne en robe de soirée laissait ses larmes couler à flots, dans une sorte d'exubérance silencieuse. Abel, vivement intéressé par l'enjeu philosophique de leur échange, essayait de mettre à distance l'aspect émotionnel que prenait cette réunion, car l'émotion était là, visible, audible, elle les traversait de manière collective et l'empêchait de penser avec toute la clarté nécessaire. « Et s'ils avaient raison ?» demanda Abel, avec entêtement. « Comment ça ?» demanda le jeune délicat gothique. S'il y avait vraiment un espoir dans les radeaux de fortune, reprit Abel. Une lueur de mépris s'alluma dans l'œil de nombreux participants, mais pas dans celui de Cyril Borgeist. S'il y a un espoir, nous l'accueillerons avec joie. Notre devise, c'est de cueillir le destin, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas des fanatiques de la destruction. Nous avons juste envie de vivre le mieux possible, tant que c'est encore possible, parce que c'est à notre tour et qu'on ne vit qu'une fois. Il parlait maintenant au pluriel, comme si la pensée qu'il exprimait engageait tout le groupe. Braver le danger, c'est ça? Respirer dans le vent de sable, surfer sur la houle des ouragans, continua Abel. C'est avoir le droit de faire ça, ou d'autres choses moins ridicules. Il y eut quelques rires, et Abel ne répondit rien. Le vent de sable faisait un bruit régulier au dehors, comme un interminable froissement d'ailes. Il pensait avoir suffisamment participé pour éveiller une curiosité chez Cyril Borgeist. S'il avait été vraiment un jeune homme uniquement intéressé par la pensée qui venait de lui être délivrée, il lui eût fallu méditer ce qu'il venait d'entendre et approfondir sa connaissance en participant à d'autres réunions. S'il avait été à la place de Cyril, jeune leader charismatique homosexuel, il se fût senti attiré par un jeune homme insolemment beau qui avait cité Nietzsche. S'il avait été à la place d'Abuela, il eût demandé « Quelles sont les revendications politiques de ce groupe? Quelle est sa dangerosité potentielle? Y a-t-il des lieutenants autour de Cyril Borgeist? Par quels moyens d'action compte-t-il s'exprimer ?» Enfin, s'il avait été à la place des autres participants, il se fût senti à la fois attiré et vaguement menacé par sa personne. Il était un intrus qui n'hésitait pas à se faire remarquer, et qui pouvait les doubler en un clin d'œil sur l'échelle qui les rapprochait du chef. Car, Abel n'en doutait pas, il y avait un culte, involontaire, naissant, mais bien réel, autour de la personnalité de Cyril Borghaest. Une discussion animée mais relativement vide de contenu nouveau s'engagea entre Cyril et ses disciples. Abel n'écouta que d'une oreille distraite les propos échangés, concentrée sur le langage corporel, les signaux inconscients et les mille autres petits détails qu'il pouvait interpréter. J'ai entendu dire que le parti de l'innovation allait sortir une nouvelle technologie révolutionnaire. Comment s'appelle leur candidat ? Le délicat, lui, s'appelait Oswald et paraissait faire partie de la garde rapprochée. Il s'exprimait de façon maniérée, un peu précieuse, et semblait d'une nervosité à fleur de peau. « Il paraît que Terence Oxford s'est fait débarquer. Où ça, au développement ?» La fille qui avait serré Cyril dans ses bras faisait peut-être partie de sa famille. Elle avait l'air un peu plus âgée que les autres et gardait le silence. Elle ne paraissait pas très à l'aise dans les échanges théoriques. « De toute façon, les trois parties, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous êtes dans un simulacre de démocratie où chacun joue son rôle. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient débarqué le vieil Oxford. » Une autre personnalité forte semblait être le jeune homme tatoué, rather dead than old. Abel n'arrivait pas à comprendre son nom, mais il semblait chargé de l'organisation des réunions et se montrait particulièrement virulent lorsqu'on abordait le sujet des élections. Un peu de sang neuf, ça ferait du bien. Le sang neuf, ce serait des partis qui ne seraient pas déjà validés par la WA, de vrais contre-pouvoirs. Cyril se montrait dans cet échange prosaïque presque commun. La flamme vive de sa pensée s'était éteinte avec son prêche, et, comme un chanteur qui redevient un homme ordinaire lorsqu'il ne s'agit plus de chanter, il se livrait aux conjectures électorales sur le ton mi-sérieux d'un café du commerce. Le parti des identités est un vrai danger, non ? Mais non, c'est l'épouvantail qu'ils brandissent, ils ne les laisseront jamais passer. Et s'ils sont élus, ils truqueront les résultats. Abel avait envie de rester. Ces gens l'intéressaient plus qu'il n'aurait su le dire. Il voulait ardemment recueillir toutes les informations qui lui manquaient, et il y avait aussi au fond de lui un sentiment plus obscur. Le personnage de Cyril Borghaest a grandi par cette triangulation du désir qu'il connaissait si bien pour en être souvent le centre, lui paraissait à sa hauteur. Il souhaitait le connaître, lui parler, lui prouver quelque chose peut-être. Mais Abel savait cultiver ses désirs comme des fleurs rares et fragiles. Il ne cueillerait pas celui-ci dès son éclosion. « J'ai entendu une rumeur selon laquelle ils auraient mis une femme à la place d'Oxford, » dit-il en s'adressant au jeune homme tatoué. Ce dernier leva vers lui un regard intéressé. « Qui ça ? » demanda-t-il. « Une certaine Costa, » répondit Abel. Les conversations reprirent tout en chœur le nom de sa sœur. « Costa ? La vieille qui se trouve toujours au deuxième rang des photos de groupe ? Mais non, la jeune cadre dynamique. Ah, trop belle pour être honnête. Encore une arnaque électorale. » Abel, avec un naturel qui le surprit lui-même, s'entendit dire. « La prochaine réunion, c'est quand ?»« La première fois, c'est ouvert à tout le monde. Mais la deuxième, il te faut un laissez-passer du chef. Va voir avec Cyril. » Abel sourit et s'approcha du groupe qui entourait le jeune leader. « Cyril, le beau gosse voudrait revenir. » Cyril s'excusa avec beaucoup de modestie auprès des autres et prit le bras d'Abel pour l'emmener à quelques pas. « Comment tu t'appelles déjà ?» Abel. Abel comment ? Il n'y eut pas de délai car Abel avait déjà réfléchi à la question. Abel Escanza. D'où tu viens ? D'un peu partout. Je suis né sur la route. Le mensonge était dangereux, mais séduisant, et il y avait peu de chances pour que cette jeunesse lettrée eût jamais mis les pieds chez les noms. Comment as-tu été informé de cette réunion ? Je suis tombé sur votre site en faisant des recherches. Il y eut un silence un peu embarrassant. « J'aimerais passer un peu de temps avec toi, » dit Cyril gravement. Abel soutint le regard qui le sondait avec une forme de mélancolie. Cette invitation était trouble. C'était celle d'un leader désireux de s'assurer de sa loyauté et de son innocuité. C'était aussi celle d'un homme jeune qui portait son désir comme un étendard. « Quand est-ce qu'on peut se voir ?» demanda Abel. « Est-ce que tu es libre ?»« Je ne sais pas si je suis libre. » Ça, c'est ce que je cherche à savoir. Mais je suis disponible. » Cyril apprécia la nuance et sourit. « Je suis encore là jusqu'à la fin de la semaine, alors, disons, demain, 18h, ici ?»« J'y serai, » fit Abel. « En attendant, tu devrais y aller. Nous avons des choses importantes à discuter. » Cela avait été dit sans méchanceté, mais fermement. Le vent de sable n'a pas fini de souffler, protesta Abel, alors que le crépitement au dehors se faisait plus insistant. Cyril éclata d'un petit rire ironique. « Il faut de l'engagement, Abel. La liberté, ça se paye cher. » Abel hocha la tête, les lèvres figées dans un sourire un peu jaune. « À demain, » fit-il en hochant la tête. « À demain, » répondit Cyril, les yeux à nouveau tendres et rêveurs. Abel fit un salut à la cantonade et se dirigea vers la sortie. Il savait qu'on allait parler de lui dès qu'il serait parti, et il en était satisfait. Mais le fait de sortir dans la rue occupa bientôt totalement son corps et son esprit. Le vent n'était pas assez fort pour le déstabiliser, mais le sable giflait son visage et s'insinuait dans ses vêtements. Il ne voyait pas à 2 mètres, avec l'étrange sensation de se trouver happé dans le tourbillon sans issue d'un univers entièrement minéral. Il releva son col pour pouvoir filtrer l'air qu'il respirait et ne garda que les yeux dehors, plus qu'à demi-clos, réduits à des fentes. Cette progression sans aucune visibilité lui faisait tourner la tête et il se demanda, vaguement, s'il parviendrait à rentrer chez lui.